Le cousin Ponce, septième partie. Monsieur, recouchez-vous donc, dit la Cibot en s'élançant sur Ponce et le forçant à se remettre au lit. Ah ça, voulez-vous vous tuer? Eh bien, ce n'est pas monsieur Poulain, c'est ce brave Rémoninque qui est si inquiet de vous qu'il vient savoir de vos nouvelles. Vous êtes si aimé que toute la maison est en l'air pour vous. De quoi donc avez-vous peur? Mais il me semble que vous êtes là plusieurs, dit le malade. Plusieurs? C'est bon. Ah, ça, rêvez-vous? Vous finirez par devenir fou, ma parole d'honneur. Tenez, voyez. La Cibot alla vivement ouvrir la porte, fit signe à Magus de se retirer et à Rémoninque d'avancer. Eh bien, mon cher monsieur, dit l'Auvergnat pour qui la Cibot avait parlé, je viens savoir de vos nouvelles, car toute la maison est dans les transes par rapport à vous. Personne n'aime que la mort se mette dans les maisons. Et enfin, le papa Monistrol, que vous connaissez bien, m'a chargé de vous dire que si vous aviez besoin d'argent, il se mettait à votre service. Il vous envoie pour donner un coup d'œil à mes bibelots, dit le vieux collectionneur avec une aigreur pleine de défiance. Dans les maladies de foie, les sujets contractent presque toujours une antipathie spéciale, momentanée. Ils concentrent leur mauvaise humeur sur un objet ou sur une personne quelconque. Or, Ponce se figurait qu'on en voulait à son trésor. Il avait l'idée fixe de le surveiller, et il envoyait, de moment en moment, Schmuck voir si personne ne s'était glissé dans le sanctuaire. « Elle est assez belle, votre collection !» répondit astucieusement Rémoninque, pour exciter l'attention des chineurs. Je ne me connais pas en haute curiosité, mais monsieur passe pour être un si grand connaisseur que, quoique je ne sois pas bien avancé dans la chose, j'achèterais bien de monsieur, les yeux fermés. Si monsieur avait quelquefois besoin d'argent, car rien ne me coûte comme ces sacrées maladies, que ma sœur en 10 jours a dépensé 30 sous de remède quand elle a eu les sangs bouleversés, et qu'elle aurait bien guéri sans cela. Les médecins sont des fripons qui profitent de notre état pour... Adieu, merci, monsieur, répondit Ponce au ferrailleur en lui jetant des regards inquiets. Je vais le reconduire, dit tout bas la Cibot à son malade. Crainte qu'il ne touche à quelque chose. Oui, oui, répondit le malade en remerciant la Cibot par un regard. La Cibot ferma la porte de la chambre à coucher, ce qui réveilla la défiance de Ponce. Elle trouva Magus immobile devant les 4 tableaux. Cette immobilité, cette admiration, ne peuvent être comprises que par ceux dont l'âme est ouverte au beau idéal, au sentiment ineffable que cause la perfection dans l'art, et qui restent plantés sur leurs pieds durant des heures entières au musée devant la Joconde de Leonardo da Vinci, devant l'Antiope du Corrège, le chef-d'œuvre de ce peintre, devant la maîtresse du Titien, la sainte famille d'Andrea del Sarto, devant les enfants entourés de fleurs du Dominicain, le petit camailleux de Raphaël et son portrait de vieillard, les plus immenses chefs-d'œuvre de l'art. « Sauvez-vous sans bruit !» dit-elle. Le juif s'en alla lentement et à reculons, regardant les tableaux comme un amant regarde une maîtresse à laquelle il dit adieu. Quand le juif fut sur le palier, la Cibot, à qui cette contemplation avait donné des idées, frappa sur le bras sec de Magus. « Vous me donnerez 4 000 francs par tableau, sinon rien de fait. « Je suis si pauvre, dit Magus. Si je désire ces toiles, c'est par amour, uniquement par amour de l'art, ma belle dame. « Tu es si sec, mon fiston, dit la portière, que je conçois cet amour-là. Mais si tu ne me promets pas aujourd'hui 16 000 francs devant Rémoninque, Demain, ce sera 20 000. « Je promets les 16, » répondit le juif effrayé de l'avidité de cette portière. « Par quoi ça peut-il jurer, un juif ?» dit la Cibot à Rémonanque. « Vous pouvez vous fier à lui, » répondit le ferrailleur. « Il est aussi honnête homme que moi. » « Eh bien, et vous ?» demanda la portière. « Si je vous en fais vendre, que me donnerez-vous »« Moitié dans les bénéfices, » dit promptement Rémonanque. « J'aime mieux une somme tout de suite. Je ne suis pas dans le commerce, » répondit la Cibot. « Vous entendez joliment les affaires, » dit Élie Magus en souriant. « Vous feriez une fameuse marchande. » « Je lui offre de s'associer avec moi, corps et bien, » dit l'Auvergnat en prenant le bras potelé de la Cibot et tapant dessus avec une force de marteau. « Je ne lui demande pas d'autre mise de fond que sa beauté. Vous avez tort de tenir à votre turc de Cibot et à son aiguille. Est-ce un petit portier qui peut enrichir une belle femme comme vous ? Ah, quelle figure vous feriez dans une boutique sur le boulevard, au milieu des curiosités, jabotant avec les amateurs et les entortillant. Laissez-moi là votre loge, quand vous aurez fait votre pelote ici, et vous verrez ce que nous deviendrons à nous deux. »
« Faire ma pelote ? » dit la Cibot. « Je suis incapable de prendre ici la valeur d'une épingle. Entendez-vous, Rémonanque ? » s'écria la portière.
« Je suis connue dans le quartier pour une honnête femme, là !»
Les yeux de la Cibot flamboyaient.
« Là, rassurez-vous, » dit Élie Magus, « cet Auvergnat a l'air de vous trop aimer pour vouloir vous offenser.
Comme elle vous mènerait les pratiques !» s'écria l'Auvergnat.
« Soyez juste, mes fistons, » reprit Madame Cibot radoucie, « et jugez vous-même de ma situation ici. Voilà 10 ans que je m'extermine le tempérament pour ces deux vieux garçons-là, sans que jamais ils ne m'aient donné autre chose que des paroles. Rémonanque vous dira que je nourris ces deux vieux à forfait, ou que je perds des 20 à 30 sous par jour, que toutes mes économies ont passé, par l'âme de ma mère, la seule auteur de mes jours que j'ai connue, mais aussi vrai que j'existe, et que voilà le jour qui nous éclaire, et que mon café me serve de poison si je mande 1 centime. Eh bien, en voilà un qui va mourir, pas vrai? Et c'est le plus riche de ces deux hommes de qui j'ai fait mes propres enfants. Croiriez-vous, mon cher monsieur, que depuis 20 jours que je lui répète qu'il est à mort, car monsieur Poulain l'a condamné, « ce Grigou-là ne parle pas plus de me mettre sur son testament que si je ne le connaissais pas. Ma parole d'honneur, nous n'avons notre duc en le prenant, foi d'honnête femme. Car allez donc vous fier à des héritiers. Plus souvent. Tenez, voyez-vous, parole ne pue pas, tout le monde est de la canaille. »
« C'est vrai, » dit sournoisement Élie Magus,
« et c'est encore nous autres, » ajouta-t-il en regardant Rémonanque, « qui sommes les plus honnêtes gens ?»«
Laissez-moi donc, » reprit la Cibot, « je ne parle pas pour vous. Les personnes pressantes, comme dit cet ancien acteur, sont toujours acceptées. Je vous jure que ces deux messieurs me doivent déjà près de 3 000 francs, que le peu que je possède est déjà passé dans les médicaments et dans leurs affaires. Et s'ils n'allaient ne me rien reconnaître de mes avances, je suis si bête avec ma probité que je n'ose pas leur en parler. Pour lors, vous qui êtes dans les affaires, mon cher monsieur, me conseillez-vous de m'adresser à un avocat ?»«
Un avocat ? » s'écria Rémonanque. « Vous en savez plus que tous les avocastes !»
Le bruit de la chute d'un corps lourd, tombé sur le carreau de la salle à manger, retentit dans le vaste espace de l'escalier.
« Ah, mon Dieu ! » cria la Cibot. « Qu'est qu'il arrive ? Il me semble que c'est monsieur qui vient de prendre un billet de parterre. »
Elle poussa ses deux complices qui dégringolèrent avec agilité, puis elle se retourna, se précipita dans la salle à manger, et y vit Ponce étalé de tout son long, en chemise, évanoui. Elle prit le vieux garçon dans ses bras, l'enleva comme une plume et le porta jusque sur son lit. Quand elle eut couché le moribond, elle lui fit respirer des barbes de plumes brûlées. Elle lui mouilla les tempes d'eau de Cologne, elle le ranima. Puis, lorsqu'elle vit les yeux de Ponce ouverts, que la vie fut revenue, elle se posa les poings sur les hanches.
« Sans pantoufles, en chemise, il y a de quoi vous tuer. Et pourquoi vous défiez-vous de moi? Si c'est ainsi, adieu, monsieur. Après 10 ans que je vous sers, que je mets du mien dans votre ménage, que mes économies sont toutes passées pour éviter des ennuis à ce pauvre monsieur Schmuck, qui pleure comme un enfant par les escaliers, voilà ma récompense. Vous venez m'espionner. Dieu vous a puni, c'est bien fait. Et moi qui me donne un effort pour vous porter dans mes bras, que je risque d'être blessée pour le reste de mes jours, ah, mon Dieu, et la porte que j'ai laissée ouverte.
Avec qui causiez-vous ?
En voilà des idées ! S'écria la Cibot. Ah, ça, suis-je votre esclave ? Ai-je des comptes à vous rendre ? Savez-vous que si vous m'ennuyez ainsi, je plante tout là, vous prendrez une garde.
Ponce, épouvantée de cette menace, donna sans le savoir à la Cibot la mesure de ce qu'elle pouvait tenter avec son épée de Damoclès.
« C'est ma maladie, » dit-il piteusement.
« À la bonne heure, » répliqua la Cibot rudement. Elle laissa Ponce confus, en proie à des remords, admirant le dévouement criard de sa garde malade, se faisant des reproches, et ne sentant pas le mal horrible par lequel il venait d'aggraver sa maladie en tombant ainsi sur les dalles de la salle à manger. La Cibot aperçut Schmuck qui montait l'escalier.
« Venez, monsieur, il y a de tristes nouvelles. Allez, monsieur Ponce devient fou. Figurez-vous qu'il s'est levé tout nu, qu'il m'a suivi. Non, il s'est étendu là tout son long. Demandez-lui pourquoi, il n'en sait rien. »
Il va mal. Je n'ai rien fait pour le provoquer à des violences pareilles, à moins de lui avoir réveillé les idées en lui parlant de ses premières amours.
Qu'est-ce qui connaît les hommes? C'est tous vieux libertins. J'ai eu tort de lui montrer mes bras, que ses yeux en brillaient comme des escarboucles.
Schmuck écoutait Madame Cibot comme s'il l'entendait parlant l'hébreu.
Je me suis donné un effort que j'en serais blessé pour jusqu'à la fin de mes jours,
ajouta la Cibot en paraissant éprouver de vives douleurs et pensant à mettre à profit l'idée qu'elle avait eue, par hasard, en sentant une petite fatigue dans les muscles.
« Je suis si bête. Quand je l'ai vu là, par terre, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai porté jusqu'à son lit, comme un enfant, quoi. Mais maintenant, je sens un effort. Ah, je me trouve mal. Je descends chez moi. Gardez votre malade. Je vais envoyer Cibot chercher M. Poulain pour moi. « J'aimerais mieux mourir que de me voir infirme. »
La Cibot accrocha la rampe et roula par les escaliers en faisant 1000 contorsions et des gémissements si plaintifs que tous les locataires, effrayés, sortirent sur les paliers de leurs appartements. Schmuck soutenait la malade en versant des larmes, et il expliquait le dévouement de la portière. Toute la maison, tout le quartier, sur bientôt le trait sublime de Madame Cibot, qui s'était donné un effort mortel, disait-on, en enlevant un des casse-noisettes dans ses bras. Schmuck, revenu près de Ponce, lui révéla l'état affreux de leur factotum, et tous deux ils se regardèrent en disant « Qu'allons-nous devenir sans elle ?» Schmuck, en voyant le changement produit chez Ponce par son escapade, n'osa pas le gronder.
« Vichy pricaprac, j'aimerais mieux les prier que de perdre mon ami !»
s'écria-t-il en apprenant de Ponce la cause de l'accident.
« Cette vie de Madame Cibot qui nous brebe ses ignominies. C'est pas bien, mais c'est la maladie.
Ah, quelle maladie! Je suis changé, je le sens, » dit Ponce. « Je ne voudrais pas te faire souffrir, mon bon Schmuck. »
Compte en moi, » dit Schmuck, et laisse Madame Cibot tranquille. »
Le docteur Poulain fit disparaître en quelques jours l'infirmité dont se disait menacée Madame Cibot, et sa réputation reçut dans le quartier du Marais un lustre extraordinaire de cette guérison, qui tenait du miracle. Il attribua chez Ponce ce succès à l'excellente constitution de la malade, qui reprit son service auprès de ces deux messieurs le 7e jour, à leur grande satisfaction. Cet événement augmenta de 100% l'influence, la tyrannie de la portière sur le ménage des deux casse-noisettes, qui, pendant cette semaine, s'étaient endettés, mais dont les dettes furent payées par elle. La Cibot profita de la circonstance pour obtenir, et avec quelle facilité, de Schmuck une reconnaissance des 2000 francs qu'elle disait avoir prêtés aux deux amis.
Ah, quel médecin que monsieur Poulain, dit la Cibot à Ponce. Il vous sauvera, mon cher monsieur, car il m'a tiré du cercueil. Mon pauvre Cibot me regardait comme morte.
Eh bien, monsieur Poulain a dû vous le dire, pendant que j'étais sur mon lit, je ne pensais qu'à vous.
Mon Dieu, que je disais, prenez-moi et laissez vivre mon cher monsieur Ponce.
Pauvre chère madame Cibot, vous avez manqué d'avoir une infirmité pour moi.
Ah, sans monsieur Poulain, je serais dans la chemise de sapin qui nous attend tous.
Eh bien, nos bouts du fossé la culbute, comme disait cet ancien acteur. Faut de la philosophie. Comment avez-vous fait sans moi?
Schmuck m'a gardé, répondit le malade. Mais notre pauvre caisse et notre clientèle en ont souffert. Je ne sais pas comment il a fait.
T'y calme, Ponce, s'écria Schmuck. Nous avons eu tant le père Cibot et une banquier.
Ne parlez pas de cela, mon cher mouton, vous êtes tous deux nos enfants, s'écria la Cibot. Nos économies sont bien placées chez vous, allez, vous êtes plus solides que la banque. Tant que nous aurons un morceau de pain, vous en aurez la moitié. Ça ne vaut pas la peine d'en parler.
Pauvre madame Cibot, dit Schmuck en s'en allant.
Ponce gardait le silence.
Croiriez-vous, mon chérubin, dit la Cibot au malade en le voyant inquiet, que dans mon agonie, car j'ai vu la Camarde de bien près, ce qui me tourmentait le plus, c'était de vous laisser seul, livré à vous-même, et de laisser mon pauvre Cibot sans un liard. C'est si peu de choses que mes économies, que je ne vous en parle que rapport à ma mort et à Cibot, qui est un ange. Non, cet être-là m'a soigné comme une reine en me pleurant comme un veau. Mais je comptais sur vous, foi d'honnête femme. Je me disais, « Va, Cibot, mes messieurs ne te laisseront jamais sans pain. »
Ponce ne répondit rien à cette attaque ad testamentum, et la portière garda le silence en attendant un mot.
« Je vous recommanderai à Schmuck, » dit enfin le malade.
« Ah ! » s'écria la portière. « Tout ce que vous ferez sera bien fait. Je m'en rapporte à vous, à votre cœur. Ne parlons jamais de cela, car vous m'humiliez, mon cher chérubin. Pensez à vous guérir. Vous vivrez plus que nous. »
Une profonde inquiétude s'empara du cœur de madame Cibot. Elle résolut de faire expliquer son monsieur sur le legs qu'il entendait lui laisser. Et de prime abord, elle sortit pour aller trouver le docteur Poulain chez lui, le soir, après le dîner de Schmuck, qui mangeait auprès du lit de Ponce depuis que son ami était malade. Le docteur Poulain demeurait rue d'Orléans. Il occupait un petit rez-de-chaussée composé d'une antichambre, d'un salon et de deux chambres à coucher. Un office contigu à l'antichambre et qui communiquait à l'une des deux chambres, celle du docteur, avait été converti en cabinet. Une cuisine, une chambre de domestique et une petite cave dépendaient de cette location située dans une aile de la maison, immense bâtisse construite sous l'Empire, à la place d'un vieil hôtel dont le jardin subsistait encore. Ce jardin était partagé entre les trois appartements du rez-de-chaussée. L'appartement du docteur n'avait pas été changé depuis 40 ans. Les peintures, les papiers, la décoration, tout y sentait l'Empire. Une crasse quadragénaire, la fumée, y avait flétri les glaces, les bordures, les dessins du papier, les plafonds et les peintures. Cette petite location, au fond du marais, coûtait encore 1000 francs par an. Madame Poulain, mère du docteur, âgée de 67 ans, achevait sa vie dans la seconde chambre à coucher. Elle travaillait pour les culottiers. Elle cousait les guêtres, les culottes de peau, les bretelles, les ceintures, enfin tout ce qui concerne cet article assez en décadence aujourd'hui. Occupée à surveiller le ménage et l'unique domestique de son fils, elle ne sortait jamais et prenait l'air dans le jardinet où l'on descendait par une porte-fenêtre du salon. Veuve depuis 20 ans, elle avait, à la mort de son mari, vendu son fonds de culottier à son premier ouvrier, qui lui réservait assez d'ouvrages pour qu'elle pût gagner environ 30 sous par jour. Elle avait tout sacrifié à l'éducation de son fils unique, en voulant le placer à tout prix dans une situation supérieure à celle de son père. Fière de son esculape, croyant à ses succès, elle continuait à tout lui sacrifier, heureuse de le soigner, d'économiser pour lui, ne rêvant qu'à son bien-être, et l'aimant avec intelligence, ce que ne savent pas faire toutes les mères. Ainsi, Madame Poulain, qui se souvenait d'avoir été simple ouvrière, ne voulait pas nuire à son fils ou prêter à rire, au mépris, car la bonne femme parlait en S comme Madame Cibot parlait en N. Elle se cachait dans sa chambre, d'elle-même, quand par hasard quelques clients distingués venaient consulter le docteur, ou lorsque des camarades de collège ou d'hôpital se présentaient. Aussi, jamais le docteur n'avait-il eu à rougir de sa mère, qu'il vénérait, et dont le défaut d'éducation était bien compensé par cette sublime tendresse. La vente du fonds de culottier avait produit environ 20 000 francs. La veuve les avait placés sur le Grand Livre en 1820, et les 1 100 francs de rente qu'elle en avait eus composaient toute sa fortune. Aussi, pendant longtemps, les voisins aperçurent-ils, dans le jardin, le linge du docteur et celui de sa mère, étendu sur des cordes. La domestique et Madame Poulain blanchissaient tout au logis avec économie. Ce détail domestique nuisait beaucoup au docteur. On ne voulait pas lui reconnaître de talent en le voyant si pauvre. Les 1 100 francs de rente passaient au loyer. Le travail de Madame Poulain, bonne grosse petite vieille, avait, pendant les premiers temps, suffi à toutes les dépenses de ce pauvre ménage. Après 12 ans de persistance dans son chemin pierreux, le docteur ayant fini par gagner 1 millier d'écus par an, Madame Poulain pouvait alors disposer d'environ 5 000 francs. C'était, pour qui connaît Paris, avoir le strict nécessaire. Le salon où les consultants attendaient était mesquinement meublé de ce canapé vulgaire, en acajou, garni de velours d'Utrecht jaune à fleurs, de 4 fauteuils, de 6 chaises, d'une console et d'une table à thé, provenant de la succession du feu culottier et le tout de son choix. La pendule, toujours sous son globe de verre, entre 2 candélabres égyptiens, figurait une lyre. On se demandait par quel procédé les rideaux pendus aux fenêtres avaient pu subsister si longtemps, car ils étaient en calicot jaune imprimé de rosaces rouges de la fabrique de Jouy. Oberkampf avait reçu des compliments de l'empereur pour ses atroces produits de l'industrie cotonnière en 1809. Le cabinet du docteur était meublé dans ce goût-là. Le mobilier de la chambre paternelle en avait fait les frais. C'était sec, pauvre et froid. Quel malade pouvait croire à la science d'un médecin qui, sans renommée, se trouvait encore sans meubles, par un temps où l'annonce est toute puissante, où l'on dort les candélabres de la place de la Concorde pour consoler le pauvre en lui persuadant qu'il est un riche citoyen. L'antichambre servait de salle à manger. La bonne y travaillait quand elle ne s'adonnait pas aux travaux de la cuisine ou qu'elle ne tenait pas compagnie à la mère du docteur. On devinait, dès l'entrée, la misère décente qui régnait dans ce triste appartement, désert pendant la moitié de la journée. En apercevant les petits rideaux de mousseline rousse à la croisée de cette pièce donnant sur la cour, les placards devaient recéler des restes de pâtés moisis, des assiettes écornées, des bouchons éternels, des serviettes d'une semaine, enfin les ignominies justifiables des petits ménages parisiens, et qui de là ne peuvent aller que dans la hotte des chiffonniers. Aussi, par ce temps où la pièce de 100 sous est tapie dans toutes les consciences, où elle roule dans toutes les phrases, le docteur, âgé de 30 ans, doué d'une mère sans relation, restait-il garçon? En 10 ans, il n'avait pas rencontré le plus petit prétexte à roman dans les familles où sa profession lui donnait accès, car il guérissait les gens dans une sphère où les existences ressemblaient à la sienne. Il ne voyait que des ménages pareils aux siens, ceux de petits employés ou de petits fabricants. Ses clients les plus riches étaient les bouchers, les boulangers, les gros détaillants du quartier, gens qui, la plupart du temps, attribuaient leur guérison à la nature pour pouvoir payer les visites du docteur à 40 sous en le voyant venir à pied. En médecine, le cabriolet est plus nécessaire que le savoir. Une vie commune et sans hasard finit par agir sur l'esprit le plus aventureux. Un homme se façonne à son sort, il accepte la vulgarité de sa vie. Aussi, le docteur Poulain, après 10 ans de pratique, continuait-il à faire son métier de Sisyphe, sans les désespoirs qui rendirent ses premiers jours amers. Néanmoins, il caressait un rêve, car tous les gens de Paris ont leurs rêves. Rémonenc jouissait d'un rêve, La Cibot avait le sien. Le docteur Poulain espérait être appelé près d'un malade riche et influent, puis obtenir, par le crédit de ce malade qu'il guérissait infailliblement, une place de médecin en chef à un hôpital, de médecin des prisons ou des théâtres du boulevard ou d'un ministère. Il avait d'ailleurs gagné sa place de médecin de la mairie de cette manière. Amené par La Cibot, il avait soigné, guéri, Monsieur Pillerot, le propriétaire de la maison où les Cibot étaient concierges. Monsieur Pillerot, grand-oncle maternel de Madame la comtesse Popinot, la femme du ministre, s'étant intéressé à ce jeune homme dont la misère cachée avait été sondée par lui dans une visite de remerciement, exigea de son petit-neveu, le ministre, qui le vénérait, la place que le docteur exerçait depuis 5 ans et dont les maigres émoluments étaient venus bien à propos pour l'empêcher de prendre un parti violent, celui de l'émigration. Quitter la France est, pour un Français, une situation funèbre. Le docteur Poulain alla bien remercier le comte Popinot. Mais le médecin de l'homme d'État étant l'illustre Brianchon, le solliciteur comprit qu'il ne pouvait guère arriver dans cette maison-là. Le pauvre docteur, après s'être flatté d'obtenir la protection d'un des ministres influents, d'une des 12 ou 15 cartes qu'une main puissante mêle depuis 16 ans sur le tapis vert de la table du conseil, se trouva replongé dans le marais où il pataugeait chez les pauvres, chez les petits bourgeois, et où il eut la charge de vérifier les décès à raison de 1 200 francs par an. Le docteur Poulain, interne assez distingué, devenu praticien prudent, ne manquait pas d'expérience. D'ailleurs, ses morts ne faisaient pas scandale, et il pouvait étudier toutes les maladies, inanima vie, juger de quel fiel il se nourrissait. Aussi, l'expression de sa figure, déjà longue et mélancolique, était-elle parfois effrayante. Mettez dans un parchemin jaune les yeux ardents de Tartuffe et l'aigreur d'Alceste. Puis, figurez-vous la démarche, l'attitude, les regards de cet homme, qui, se trouvant tout aussi bon médecin que l'illustre Bianchon, se sentait maintenu dans une sphère obscure par une main de fer. Le docteur Poulain ne pouvait s'empêcher de comparer ses recettes de 10 francs dans les jours heureux à celles de Bianchon qui vont à 500 ou 600 francs. N'est-ce pas à concevoir toutes les haines de la démocratie? Cet ambitieux, refoulé, n'avait d'ailleurs rien à se reprocher. Il avait déjà tenté la fortune en inventant des pilules purgatives, semblables à celles de Morisson. Il avait confié cette exploitation à l'un de ses camarades d'hôpital, un interne devenu pharmacien. Mais le pharmacien, amoureux d'une figurante de l'ambigu comique, s'était mis en famille, et le brevet d'invention des pilules purgatives, se trouvant pris à son nom, cette immense découverte avait enrichi le successeur. L'ancien interne était parti pour le Mexique, la patrie de l'or, en emportant 1000 francs d'économie au pauvre Poulain, qui, pour fiche de consolation, fut traité d'usurier par la figurante à laquelle il vint redemander son argent. Depuis la bonne fortune de la guérison du vieux Pillerault, pas un seul client riche ne s'était présenté. Poulain courait tout le marais, à pied, comme un chat maigre, et sur 20 visites, en obtenait 2 à 40 sous. Le client qui payait bien était, pour lui, cet oiseau fantastique, appelé le merle blanc dans tous les mondes sublunaires. Le jeune avocat sans cause, le jeune médecin sans client, sont les deux plus grandes expressions du désespoir décent, particulier à la ville de Paris. Ce désespoir, muet et froid, vêtu d'un habit et d'un pantalon noir à couture blanchie qui rappelle le zinc de la mansarde, d'un gilet de satin luisant, d'un chapeau ménagé saintement, de vieux gants et de chemises en calicot. C'est un poème de tristesse, sombre comme les secrets de la conciergerie. Les autres misères, celles du poète, de l'artiste, du comédien, du musicien, sont égayées par les jovialités naturelles aux arts, par l'insouciance de la bohème où l'on entre d'abord et qui mène aux thébaïdes du génie. Mais ces deux habits noirs qui vont à pied, portés par deux professions pour lesquelles tout est plaid, à qui l'humanité ne montre que ses côtés honteux, ces deux hommes ont, dans les aplatissements du début, des expressions sinistres, provocantes, où la haine et l'ambition concentrées jaillissent par des regards semblables aux premiers efforts d'un incendie couvé. Quand deux amis de collège se rencontrent, à 20 ans de distance, le riche évite alors son camarade pauvre, il ne le reconnaît pas, il s'épouvante des abîmes que la destinée a mis entre eux. L'un a parcouru la vie sur les chevaux fringants de la fortune ou sur les nuages dorés du succès. L'autre a cheminé souterrainement dans les égouts parisiens, et il emporte les stigmates. Combien d'anciens amis évitaient le docteur à l'aspect de sa redingote et de son gilet? Maintenant, il est facile de comprendre comment le docteur Poulain avait si bien joué son rôle dans la comédie du danger de la Cibot. Toutes les convoitises, toutes les ambitions se devinent. En ne trouvant aucune lésion dans aucun organe de la portière, en admirant la régularité de son pouls, la parfaite aisance de ses mouvements, et en l'entendant jeter les hauts cris, il comprit qu'elle avait un intérêt à se dire à la mort. La rapide guérison d'une grave maladie feinte devant faire parler de lui dans l'arrondissement, il exagéra la prétendue descente de la Cibot. Il parla de la résoudre en la prenant à temps. Enfin, il soumit la portière à de prétendus remèdes, à une fantastique opération, qui furent couronnées d'un plein succès. Il chercha, dans l'arsenal des cures extraordinaires de Desplein, un cas bizarre. Il en fit l'application à Madame Cibot, attribua modestement la réussite au grand chirurgien, et se donna pour son imitateur. Telles sont les audaces des débutants à Paris. Tout leur fait échelle pour monter sur le théâtre. Mais, comme tout s'use, même les bâtons d'échelle, les débutants en chaque profession ne savent plus de quel bois se faire des marchepieds. Par certains moments, le Parisien est réfractaire au succès. Lassé d'élever des piédestaux, il boude, comme les enfants gâtés, et ne veut plus d'idole. Ou, pour être vrai, les gens de talent manquent parfois à ces engouements. La gangue d'où s'extrait le génie a ses lacunes. Le Parisien ne regimbe alors. Il ne veut pas toujours dorer ou adorer les médiocrités. Tout vient à point à qui sait attendre. En entrant avec sa brusquerie habituelle, Madame Cibot surprit le docteur à table avec sa vieille mère, mangeant une salade de mâche, la moins chère de toutes les salades, et n'ayant pour dessert qu'un angle aigu de fromage de brie, entre une assiette peu garnie par les fruits, dits les quatre mendiants, où se voyaient beaucoup de râpes de raisin, et une assiette de mauvaises pommes de bateau. « Ma mère, vous pouvez rester, » dit le médecin en retenant Madame Poulain par le bras.
C'est Madame Cibot de qui je vous ai parlé.
Mes respects, madame, mes devoirs, monsieur, dit la Cibot en acceptant la chaise que lui présenta le docteur.
Ah, c'est madame votre mère. Elle est bien heureuse d'avoir un fils qui a tant de talent.
Car c'est mon sauveur, madame. Il m'a tiré de l'abîme.
La veuve Poulain trouva Madame Cibot charmante en l'entendant faire ainsi l'éloge de son fils.
C'est donc pour vous dire, mon cher monsieur Poulain, entre nous, que le pauvre monsieur Ponce va bien mal et que j'ai à vous parler rapport à lui.
Passons au salon, dit le docteur Poulain en montrant la domestique à Madame Cibot par un geste significatif.
Une fois au salon, la Cibot expliqua longuement sa position avec les deux casse-noisettes. Elle répéta l'histoire de son prêt en l'enjolivant et raconta les immenses services qu'elle rendait depuis 10 ans à messieurs Ponce et Schmuck. À l'entendre, ces deux vieillards n'existeraient plus sans ses soins maternels. Elle se posa comme un ange et dit tant et tant de mensonges arrosés de larmes qu'elle finit par attendrir la vieille Madame Poulain.
« Vous comprenez, mon cher monsieur, dit-elle en terminant, qu'il faudrait bien savoir à quoi s'en tenir sur ce que monsieur Ponce compte faire pour moi dans le cas où il viendrait à mourir. C'est ce que je ne souhaite guère, car ces deux innocents à soigner, voyez-vous, madame, c'est ma vie. Mais si l'un d'eux me manque, je soignerai l'autre. Moi, la nature m'a bâti pour être la rivale de la maternité. Sans quelqu'un à qui je m'intéresse, de qui je me fais un enfant, je ne saurais que devenir. Donc, si monsieur Poulain le voulait, il me rendrait un service que je saurais bien reconnaître. Ce serait de parler de moi à monsieur Ponce. Mon Dieu, 1000 francs de viager, est-ce trop? Je vous le demande. C'est autant de gagner pour monsieur Schmuck. Pour lors, notre cher malade m'a donc dit qu'il me recommanderait à ce pauvre Allemand, qui serait donc, dans son idée, son héritier. Mais qu'est-ce qu'un homme qui ne sait pas coudre 2 idées en français, et qui d'ailleurs est capable de s'en aller en Allemagne, tant il sera désespéré de la mort de son ami?
« Ma chère Madame Cibot, répondit le docteur devenu grave, ces sortes d'affaires ne concernent point les médecins, et l'exercice de ma profession me serait interdit si l'on savait que je me suis mêlé des dispositions testamentaires d'un de mes clients. La loi ne permet pas à un médecin d'accepter un legs de son malade.
Quelle bête loi! Car qu'est-ce qui m'empêche de partager mon legs avec vous?
Répondit sur le champ la Cibot.
J'irai plus loin, dit le docteur. Ma conscience de médecin m'interdit de parler à monsieur Ponce de sa mort. D'abord, il n'est pas assez en danger pour cela. Puis, cette conversation de ma part lui causerait un saisissement qui pourrait lui faire un mal réel et rendre alors sa maladie mortelle.
Mais je ne prends pas de mitaine, s'écria Madame Cibot, pour lui dire de mettre ses affaires en ordre, et il ne s'en porte pas plus mal. Il est fait à cela. Ne craignez rien.
Ne me dites rien de plus, ma chère Madame Cibot. Ces choses ne sont pas du domaine de la médecine. Elles regardent les notaires.
Mais, mon cher monsieur Poulain, si monsieur Ponce vous demande de lui-même où il en est, et s'il ferait bien de prendre ses précautions, là, refuseriez-vous de lui dire que c'est une excellente chose pour recouvrer la santé que d'avoir tout bâclé? Puis vous glisseriez un petit mot de moi.
Ah, s'il me parle de faire son testament, je ne l'en détournerai point, dit le docteur Poulain.
Eh bien, voilà qui est dit, s'écria Madame Cibot. Je venais vous remercier de vos soins,
ajouta-t-elle en glissant dans la main du docteur une papillote qui contenait 3 pièces d'or.
C'est tout ce que je puis faire pour le moment.
Ah, si j'étais riche, vous le seriez, mon cher monsieur Poulain. « Vous qui êtes l'image du bon Dieu sur la terre. Vous avez là, madame, pour fils, un ange. »
La Cibot se leva. Madame Poulain la salua d'un air aimable et le docteur la reconduisit jusque sur le palier. Là, cette affreuse Lady Macbeth de la rue fut éclairée d'une lueur infernale. Elle comprit que le médecin devait être son complice,
puisqu'il acceptait des honoraires pour une fausse maladie.
« Comment, mon bon monsieur Poulain, lui dit-elle, après m'avoir tiré d'affaire pour mon accident, vous refuseriez de me sauver de la misère en disant quelques paroles ?»
Le médecin sentit qu'il avait laissé le diable le prendre par un de ses cheveux, et que ce cheveu s'enroulait sur la corne impitoyable de la griffe rouge. Effrayé de perdre son honnêteté pour si peu de choses, il répondit à cette idée diabolique par une idée non moins diabolique.
« Écoutez, ma chère madame Cibot, dit-il en la faisant rentrer et l'emmenant dans son cabinet, « je vais vous payer la dette de reconnaissance que j'ai contractée envers vous, à qui je dois ma place de la mairie. »
« Nous partagerons, dit-elle vivement.
« Quoi ? Demanda le docteur.
« La succession, répondit la portière.
« Vous ne me connaissez pas, répliqua le docteur en se posant en Valerius Publicola.
« Ne parlons plus de cela. J'ai pour ami de collège un garçon fort intelligent, et nous sommes d'autant plus liés que nous avons eu les mêmes chances dans la vie. Pendant que j'étudiais la médecine, il faisait son droit. Pendant que j'étais interne, il grossoyait chez un avoué, maître Couture. Fils d'un cordonnier, comme je suis celui d'un culottier, il n'a pas trouvé de sympathie bien vive autour de lui, mais il n'a pas trouvé non plus de capitaux. Car après tout, les capitaux ne s'obtiennent que par sympathie. Il n'a pu traiter d'une étude qu'en province, à Mantes. Or, les gens de province comprennent si peu les intelligences parisiennes que l'on a fait 1000 chicanes à mon ami.
« Des canailles !» s'écria la Cibot.
« Oui, reprit le docteur, car on s'est coalisé contre lui, si bien qu'il a été forcé de revendre son étude pour des faits où l'on a su lui donner l'apparence d'un tort. Le procureur du roi s'en est mêlé, ce magistrat était du pays, il a pris fait et cause pour les gens du pays. Ce pauvre garçon, encore plus sec et plus râpé que je ne le suis, logé comme moi, nommé Fraisier, s'est réfugié dans notre arrondissement. Il en est réduit à plaider, car il est avocat, devant la justice de paix et le tribunal de police ordinaire. Il demeure ici près, rue de la Perle. Allez au numéro 9. Vous monterez 3 étages, et sur le palier, vous verrez imprimé en lettres d'or « Cabinet de Monsieur Fraisier » sur un petit carré de maroquin rouge. Fraisier se charge spécialement des affaires contentieuses de messieurs les concierges, des ouvriers et de tous les pauvres de notre arrondissement, à des prix modérés. C'est un honnête homme, car je n'ai pas besoin de vous dire qu'avec ses moyens, s'il était fripon, il roulerait carrosse. Je verrai mon ami Fraisier ce soir. Allez chez lui demain de bonne heure. Il connaît monsieur Louchard, le garde de commerce. Monsieur Tabarot, l'huissier de la justice de paix, monsieur Vitel, le juge de paix, et monsieur Trognon, notaire. Il est lancé déjà parmi les gens d'affaires les plus considérés du quartier. S'il se charge de vos intérêts, si vous pouvez le donner comme conseil à monsieur Ponce, vous aurez en lui, voyez-vous, un autre vous-même. Seulement, n'allez pas, comme avec moi, lui proposer des compromis qui blessent l'honneur. Mais il a de l'esprit. Vous vous entendrez. Puis, quant à reconnaître ses services, je serai votre intermédiaire. »
Madame Cibot regarda le docteur malignement. « N'est-ce pas l'homme de loi, dit-elle, qui a tiré la mercière de la rue Vieille du Temple, madame Florimond, de la mauvaise passe où elle était, rapport à cet héritage de son bon ami ?»«
C'est lui-même, dit le docteur.
« N'est-ce pas une horreur ? S'écria la Cibot.
Qu'après lui avoir obtenu 2000 francs de rente, elle lui a refusé sa main, qu'il lui demandait, et qu'elle a cru, dit-on, être quitte en lui donnant 12 chemises de toile de Hollande, 24 mouchoirs, enfin tout un trousseau.
« Ma chère madame Cibot, dit le docteur, le trousseau valait 1000 francs, et Fraisier, qui débutait alors dans le quartier, en avait bien besoin. Elle a d'ailleurs payé le mémoire de frais sans observation. Cette affaire-là en a valu d'autres à Fraisier, qui maintenant est très occupé. Mais dans mon genre, Nos clientèles se valent.
Il n'y a que les justes qui pâtissent ici-bas, répondit la portière. Eh bien, adieu et merci, mon bon monsieur Poulain.
Ici commence le drame, ou, si vous voulez, la comédie terrible de la mort d'un célibataire livré par la force des choses à la rapacité des natures cupides qui se groupent à son lit, et qui, dans ce cas, eurent pour auxiliaire la passion la plus vive, celle d'un tablomane, l'avidité du sieur Fraisier, qui, vu dans sa caverne, va vous faire frémir, et la soif d'un Auvergnat capable de tout, même d'un crime, pour se faire un capital. Cette comédie, à laquelle cette partie du récit sert en quelque sorte d'avant-scène, a d'ailleurs pour acteurs tous les personnages qui, jusqu'à présent, ont occupé la scène. L'avilissement des mots est une de ces bizarreries des mœurs qui, pour être expliquée, voudrait des volumes. Écrivez à un avoué en le qualifiant d'homme de loi. Vous l'aurez offensé tout autant que vous offenseriez un négociant en gros de denrées coloniales à qui vous adresseriez ainsi votre lettre. Monsieur un tel, virgule, épicier. Un assez grand nombre de gens du monde qui devraient savoir, puisque c'est là toute leur science, ces délicatesses du savoir-vivre, ignorent encore que la qualification d'homme de lettres est la plus cruelle injure qu'on puisse faire à un auteur. Le mot « monsieur » est le plus grand exemple de la vie et de la mort des mots. « Monsieur » veut dire « monseigneur ». Ce titre, si considérable autrefois, réservé maintenant au roi par la transformation de « sieur » en « sire », se donne à tout le monde. Et néanmoins, « messire », qui n'est pas autre chose que le double du mot « monsieur » et son équivalent, soulève des articles dans les feuilles républicaines quand, par hasard, il se trouve mis dans un billet d'enterrement. Magistrats, conseillers, jurisconsultes, juges, avocats, officiers ministériels, avoués, huissiers, conseils, hommes d'affaires, agents d'affaires et défenseurs sont les variétés sous lesquelles se classent les gens qui rendent la justice ou qui la travaillent. Les deux derniers bâtons de cette échelle sont le praticien et l'homme de loi. Le praticien, vulgairement appelé recors, est l'homme de justice par hasard, et il est là pour assister l'exécution des jugements. C'est, pour les affaires civiles, un bourreau d'occasion. Quant à l'homme de loi, c'est l'injure particulière à la profession. Il est à la justice ce que l'homme de lettres est à la littérature. Dans toutes les professions, en France, la rivalité qui les dévore a trouvé des termes de dénigrement. Chaque État a son insulte. Le mépris qui frappe les mots « homme de lettres » et « homme de loi » s'arrête au pluriel. On dit très bien sans blesser personne « les gens de lettres, les gens de loi ». Mais à Paris, chaque profession a ses omégas. Des individus qui mettent le métier de plein pied avec la pratique des rues, avec le peuple. Aussi, l'homme de loi, le petit agent d'affaires, existe-t-il encore dans certains quartiers, comme on trouve encore à la Halle le prêteur à la petite semaine, qui est à la haute banque ce que M. Fraisier était à la compagnie des avoués. Chose étrange, les gens du peuple ont peur des officiers ministériels, comme ils ont peur des restaurants fashionables. Ils s'adressent à des gens d'affaires comme ils vont boire au cabaret. Le plain-pied est la loi générale des différentes sphères sociales. Il n'y a que les natures d'élite qui aiment à gravir les hauteurs, qui ne souffrent pas en se voyant en présence de leurs supérieurs, qui se font leur place, comme bon marché, laissant tomber la montre d'un grand seigneur essayant de l'humilier. Mais aussi les parvenus, surtout ceux qui savent faire disparaître leur lange, sont-ils des exceptions grandioses. Le lendemain, à 6 heures du matin, Madame Cibot examinait, rue de la Perle, la maison où demeurait son futur conseiller, le sieur Fraisier, homme de loi. C'était une de ces vieilles maisons habitées par la petite bourgeoisie d'autrefois. On y entrait par une allée.
Le rez-de-chaussée, en partie occupé par la loge du portier et par la boutique d'un ébéniste, dont les ateliers et les magasins encombraient une petite cour intérieure, se trouvait partagé par l'allée et par la cage de l'escalier, que le salpêtre et l'humidité dévoraient. Cette maison semblait attaquée de la lèpre. Madame Cibot alla droit à la loge. Elle y trouva l'un des confrères de Cibot, un cordonnier, sa femme et deux enfants en bas âge, logés dans un espace de 10 pieds carrés, éclairé sur la petite cour. La plus cordiale entente régna bientôt entre les deux femmes, une fois que la Cibot eut déclaré sa profession, se fut nommée et eut parlé de sa maison de la rue de Normandie. Après un quart d'heure, employé par les commérages et pendant lequel la portière de Monsieur Fraisier faisait le déjeuner du cordonnier et des deux enfants, Madame Cibot amena la conversation sur les locataires et parla de l'homme de loi. « Je viens le consulter, dit-elle, pour des affaires. Un de ses amis, Monsieur le docteur Poulain, a dû me recommander à lui. Vous connaissez Monsieur Poulain ?»«
Je le crois bien, dit la portière de la rue de la Perle. « Il a sauvé ma petite qu'avait le croup. »«
Il m'a sauvé aussi, moi, madame. Quel homme est-ce, ce monsieur Fraisier ?»«
C'est un homme, ma chère dame, dit la portière, de qui l'on arrache bien difficilement l'argent de ses ports de lettres à la fin du mois. »
Cette réponse suffit à l'intelligente Cibot. « On peut être pauvre et honnête, répondit-elle.
« Je l'espère bien, reprit la portière de Fraisier. Nous ne roulons pas sur l'or ni sur l'argent, pas même sur les sous, mais nous n'avons pas un liard à qui que ce soit. »
La Cibot se reconnut dans ce langage. « Enfin, ma petite, reprit-elle, on peut se fier à lui, n'est-ce pas ?»«
Ah, dame, quand Monsieur Fraisier veut du bien à quelqu'un, j'ai entendu dire à Madame Florimond qu'il n'a pas son pareil. »
« Et pourquoi ne l'a-t-elle pas épousé ?» demanda vivement la Cibot, « puisqu'elle lui devait sa fortune. C'est quelque chose pour une petite mercière, et qui était entretenue par un vieux, que de devenir la femme d'un avocat.
« Pourquoi ?» dit la portière en entraînant Madame Cibot dans l'allée.
« Vous montez chez lui, n'est-ce pas, madame ? Eh bien, quand vous serez dans son cabinet, vous saurez pourquoi. »
L'escalier, éclairé sur une petite cour par des fenêtres à coulisses, annonçait qu'excepté le propriétaire et le sieur Fraisier, les autres locataires exerçaient des professions mécaniques. Les marches boueuses portaient l'enseigne de chaque métier, en offrant au regard des découpures de cuivre, des boutons cassés, des brimborions de gaz, de sparterie. Les apprentis des étages supérieurs y dessinaient des caricatures obscènes. Le dernier mot de la portière, en excitant la curiosité de Madame Cibot, la décida naturellement à consulter l'ami du docteur Poulain, mais en se réservant de l'employer à ses affaires d'après ses impressions.
« Je me demande quelquefois comment Madame Sauvage peut tenir à son service ?» dit en forme de commentaire la portière qui suivait Madame Cibot.
« Je vous accompagne, madame, ajouta-t-elle, car je monte le lait et le journal à mon propriétaire. »
Arrivée au second étage au-dessus de l'entresol, la Cibot se trouva devant une porte du plus vilain caractère. La peinture, d'un rouge faux, était enduite sur 20 centimètres de largeur, de cette couche noirâtre qui dépose les mains après un certain temps, et que les architectes ont essayé de combattre dans les appartements élégants par l'application de glace au-dessus et au-dessous des serrures. Le guichet de cette porte, bouché par des scories semblables à celles que les restaurateurs inventent pour vieillir des bouteilles adultes, ne servait qu'à mériter à la porte le surnom de porte de prison, et concordait d'ailleurs à ses ferrures en trèfle, à ses gonds formidables, à ses grosses têtes de clous. Quelque avare ou quelque folliculaire en querelle avec le monde entier devait avoir inventé ces appareils. Le plomb, où se déversaient les eaux ménagères, ajoutait sa quote-part de puanteur dans l'escalier,
dont le plafond offrait partout des arabesques dessinées avec de la fumée de chandelle. Et quelles arabesques! Le cordon de tirage, au bout duquel pendait une olive crasseuse, fit résonner une petite sonnette dont l'organe faible dévoilait une cassure dans le métal. Chaque objet était un trait en harmonie avec l'ensemble de ce hideux tableau. La Cibot entendit le bruit d'un pas pesant et la respiration asthmatique d'une femme puissante. Et Madame Sauvage se manifesta. C'était une de ces vieilles, devinées par Adrien Brouwer dans ses sorcières partant pour le sabbat. Une femme de 5 pieds 6 pouces, à visage soldatesque et beaucoup plus barbu que celui de la Cibot, d'un embonpoint maladif, vêtue d'une affreuse robe de rouennerie à bon marché, coiffée d'un madras, faisant encore papillote avec les imprimés que recevait gratuitement son maître, et portant à ses oreilles des espèces de roues de carrosse en or. Ce cerbère femelle tenait à la main un poêlon en fer blanc, bossué, dont le lait répandu jetait dans l'escalier une odeur de plus, qui s'y sentait peu, malgré son âcreté nauséabonde. « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, madame ?» demanda Madame Sauvage. Et d'un air menaçant, elle jeta sur la Cibot, qu'elle trouva sans doute trop bien vêtue, un regard d'autant plus meurtrier que ses yeux étaient naturellement sanguinolents. « Je viens voir Monsieur Fraisier de la part de son ami le docteur Poulain. »« Entrez, mesdames, » répondit la Sauvage d'un air devenu soudain très aimable et qui prouvait qu'elle était avertie de cette visite matinale. Et, après avoir fait une révérence de théâtre, la domestique à moitié mâle du sieur Fraisier ouvrit brusquement la porte du cabinet qui donnait sur la rue et où se trouvait l'ancien avoué de Mantes. Ce cabinet ressemblait absolument à ces petites études d'huissier du troisième ordre, où les cartonniers sont en bois noirci, où les dossiers sont si vieux qu'ils ont de la barbe, en style de cléricature, où les ficelles rouges pendent d'une façon lamentable, où les cartons sentent les ébats des souris, où le plancher est gris de poussière et le plafond jaune de fumée. La glace de la cheminée était trouble, les chenets en fonte supportaient une bûche économique. La pendule en marqueterie moderne, valant 60 francs, avait été achetée à quelque vente par autorité de justice, et les flambeaux qui l'accompagnaient étaient en zinc, mais ils affectaient des formes rococo mal réussies, et la peinture, partie en plusieurs endroits, laissait voir le métal. Monsieur Fraisier, petit homme sec et maladif, à figure rouge, dont les bourgeons annonçaient un sang très vicié, mais qui d'ailleurs se grattait incessamment le bras droit, et dont la perruque, mise très en arrière, laissait voir un crâne couleur de brique et d'une expression sinistre, se leva de dessus un fauteuil de canne, où il siégeait sur un rond en maroquin vert. Il prit un air agréable et une voix flûtée pour dire, en avançant une chaise, « Madame Cibot, je pense. » « Oui, monsieur, » répondit la portière qui perdit son assurance habituelle. Madame Cibot fut effrayée par cette voix, qui ressemblait assez à celle de la sonnette, et par un regard encore plus vert que les yeux verdâtres de son futur conseil. Le cabinet sentait si bien son fraisier qu'on devait croire que l'air y était pestilentiel. Madame Cibot comprit alors pourquoi Madame Florimond n'était pas devenue Madame Fraisier. « Poulain m'a parlé de vous, ma chère dame, » dit l'homme de loi, de cette voix d'emprunt qu'on appelle vulgairement petite voix, mais qui restait aigre et clairette comme un vin de pays. Là, cet agent d'affaires essaya de se draper en ramenant sur ses genoux pointus, couverts en molletons excessivement râpés, les deux pans d'une vieille robe de chambre en calicot imprimé, dont la ouate prenait la liberté de sortir par plusieurs déchirures. Mais le poids de cette ouate entraînait les pans et découvrait un juste au corps en flanelle devenu noirâtre. Après avoir resserré, d'un petit air fat, la cordelière de cette robe de chambre réfractaire pour dessiner sa taille de roseau, Fraisier réunit d'un coup de pincette deux tisons qui s'évitaient depuis fort longtemps, comme deux frères ennemis. Puis, saisi d'une pensée subite, il se leva. « Madame Sauvage ! » cria-t-il. « Après ? Je n'y suis pour personne. »
« Eh, parbleu, on le sait !»
répondit la virago d'une maîtresse voix. « C'est ma vieille nourrice !» dit l'homme de loi d'un air confus à la Cibot. « Elle a encore beaucoup de lait !» répliqua l'ancienne héroïne des Halles. Fraisier rit du calembour et mit le verrou pour que sa ménagère ne vînt pas interrompre les confidences de la Cibot. « Eh bien, madame, expliquez-moi votre affaire, » dit-il en s'asseyant et tâchant toujours de draper sa robe de chambre. « Une personne qui m'est recommandée par le seul ami que j'ai au monde peut compter sur moi. »« Mais absolument !»